Nous allons aborder dans ce cours quelques notions sur le conscient et l'inconscient. Ces notions, dans ce cours podcast sonore, sont un peu plus développées que ce que vous pourrez trouver dans le manuel, en sachant que dans le manuel, j'ai vraiment fait la synthèse, et comme je l'ai déjà expliqué, notamment dans la préface du manuel, le manuel est un support utile, vous devez impérativement le lire, mais vous devez aussi le compléter avec tout ce que je peux vous apporter pendant les cours vidéo ou oraux. Alors, le conscient, le préconscient, l'inconscient, le subconscient, tout cela sont des concepts freudiens. On est directement lié à celui qui, dans l'histoire, a réinventé quelque part. On peut dire inventé, moi je préfère dire réinventé, parce que dans le domaine scientifique ou psychiatrique ou psychologique, on se fonde souvent sur les travaux des anciens, même si les définitions n'étaient pas très précises. On les fait évoluer et on fait émerger de nouveaux concepts. Bref, le conscient et l'inconscient sont des concepts freudiens. Alors on va repartir à la base, c'est-à-dire que lorsqu'on est enfant, ou même avant, lorsqu'on est nourrisson, notre vie ne se distingue pas vraiment de celle qui nous nourrit, c'est-à-dire de notre mère. Et donc il n'y a pas réellement à ce moment-là de conscience de notre propre corps. Ce n'est que progressivement que nous allons, nous les nourrissons, et ensuite en grandissant, bébé, enfant, etc., prendre conscience de nous-mêmes, intégrer les limites de notre corps, de ce qui est à nous, de ce qui est différent et de ce que sont les autres. Ainsi, on va distinguer petit à petit ce qui est de l'ordre du moi et ce qui ne l'est pas. Donc le conscient ou la conscience est à la fois le lieu, parce que même si on travaille sur un matériau que l'on ne connaît pas, hein, le cerveau, on peut penser que, si on est humble, on peut penser que la science ne connaît pas le cerveau, ou très peu. Et ce n'est pas parce qu'on va faire quelques IRM avec quelques couleurs que l'on réellement connaît le cerveau. Hein. Bien malin celui qui peut dire qu'il connaît le cerveau. Et à l'intérieur de ce cerveau, il y a donc cette théorie du conscient et de l'inconscient, et notamment la théorie de l'inconscient, qui n'existe peut-être pas, cet inconscient, on ne le sait pas, on ne connaît pas la mécanique, encore une fois, du cerveau, et encore moins la mécanique du conscient, la mécanique d'une théorie. Bref, disais-je, le conscient, ou la conscience, est à la fois le lieu de nos sensations, de nos perceptions directes, que l'on ressent, que l'on perçoit directement et dont on a conscience. J'ai conscience de souffrir, j'ai conscience d'être heureux, je prends du plaisir. Et c'est aussi le lieu d'une réalité subjective de cette conscience, de ces émotions, de ces perceptions. Bref, ce lieu constitue la matière même de notre vie psychique. Il organise les données de nos sens et de notre mémoire, et nous situe dans le temps et dans l'espace. Donc le conscient communique avec l'inconscient par le préconscient, grâce au langage. Alors le préconscient, appelé également le subconscient. Encore une fois, ne perdez pas de vue que tout cela est du théorique. Mais personne ne peut invalider le fait que l'inconscient, qui est ce que j'appelle notre banque émotionnelle, existe. Nous sommes dirigés par nos émotions, personne ne peut l'invalider, personne, même si nous n'en avons pas la preuve que cet inconscient existe, d'une manière ou d'une autre, il se met en œuvre. Alors, le préconscient désigne un système de l'appareil psychique, ça on est dans la théorie freudienne, hein, distinct du système inconscient. Donc, du point de vue de la métapsychologie, il est régi par des processus secondaires. On va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, il est séparé du système inconscient par la censure qui ne permet pas au contenu et au processus inconscient de passer dans le préconscient sans subir de transformation. Donc les opérations et les contenus du préconscient ne sont pas présents dans le champ de la conscience, mais ils se différencient des contenus de l'inconscient en ce qu'ils restent accessibles à la conscience. Bon, tout ça, ce sont des questions de définition finalement. L'important étant de comprendre le mécanisme qui relie le conscient, nos perceptions dont on a conscience, à l'inconscient et les déformations potentielles et théorique, encore une fois, que celui-ci peut enregistrer et comprendre. Alors, l'inconscient, c'est quoi ? L'inconscient, c'est ce lieu, ce contenant, cette banque émotionnelle qui contient le pôle pulsionnel de notre personnalité, qui est, selon Freud, toujours fondamentalement dirigé par le principe du plaisir. Il comporte aussi les processus qui, par les mécanismes de refoulement, sont maintenus hors de la conscience. C'est-à-dire que on refoule des processus, des émotions, des sensations. Elles restent dans l'inconscient et on n'en a pas conscience. Et c'est le réservoir de la libido et de l'énergie psychique. Cette notion d'énergie psychique est très importante. Alors ces contenus sont d'une part héréditaires et d'autre part refoulés et acquis. Voilà, c'est le domaine de l'instinctif, du biologique. Alors toutefois, il faut savoir que cet inconscient, toujours théoriquement, semble dynamique. C'est-à-dire qu'il évolue en permanence et il influence constamment le comportement et l'expérience. Maintenant, on va s'attarder un peu sur l'inconscient et le refoulement. Lorsqu'une représentation inconsciente est incompatible avec les exigences du surmoi, alors qu'est-ce que le surmoi ? Le moi, pour se défendre, il utilise différents niveaux, différentes représentations et différents procédés, notamment le surmoi. On va dire que c'est une couche supplémentaire de défense pour être moins atteint. L'un d'entre eux est notamment le refoulement. Il se manifeste, ce refoulement, lorsque le désir et les pulsions ne peuvent être acceptés et doivent être dérivés de leur objet. Donc le conscient accède à l'inconscient, comme les organes des sens accèdent à la réalité extérieure. Il y a une constitution, entre guillemets, d'un réservoir, d'une banque ou d'un grenier, où sont engrangées toutes les informations vécues. L'individu peut faire appel à un moment précis à ses vécus. Ces faits sont dits refoulés. Le refoulement est l'opération par laquelle le sujet va chercher à repousser ou à maintenir dans l'inconscient les représentations liées à cette pulsion, à une pulsion. Et tout ce qui est refoulé devient inconscient. Mais l'inconscient n'est pas constitué que de cela. Il y a aussi des contenus innés qui ne sont jamais passés par la conscience. L'inconscient obéit au processus primaire que sont le déplacement, donc le changement d'objet, et la condensation, donc plusieurs objets en un seul objet. Ces deux processus primaires obéissent au principe du plaisir. Les désirs sont mobiles et essaient de s'extérioriser, provoquant le refoulement. En fait, le refoulement est un filtre incité par le surmoi, donc une étape du moi, et opéré donc par le moi. Bon, alors, tout cela est un peu technique, je ne vais pas dire scientifique, parce qu'on ne peut pas parler de science lorsqu'on parle de théorie freudienne ou lacanienne ou de toute la théorie psychanalytique qui définit le moi, le surmoi, l'inconscient. Bon, tiens, en parlant d'inconscient, voilà la cloche à côté du cabinet qui se réveille. Alors, ce qui est important de retenir, et ça c'est intéressant, pour ce qui nous concerne directement, nous les hypnothérapeutes, qui travaillons sur les symptômes, en hypnose on travaille sur les symptômes, on va pas chercher les liens de causalité pour essayer de sublimer et de supprimer le symptôme, non, on va travailler directement sur le symptôme et essayer de le recouvrir, et notamment l'un des symptômes potentiels c'est l'angoisse. Donc ce qui est intéressant, ce dont il est intéressant de parler, c'est de cette relation inconscient, symptôme et angoisse. Le symptôme est le produit du refoulement qui consiste à un retour du refoulé sur le plan somatique. C'est-à-dire que le refoulement va essayer de s'extérioriser, il sera refoulé et ça va créer un symptôme. On va somatiser. Donc ce symptôme sert à échapper à l'angoisse. Il est le substitut d'une satisfaction pulsionnelle qui n'a pas eu lieu. Et par là, ce qui aurait dû être du plaisir devient déplaisir, inconfort, angoisse, symptôme douloureux. Il est aussi intéressant de s'attarder sur alors quelque chose encore un peu plus technique, le psychisme, tel que défini par Freud, notamment la naissance de la théorie des lieux. Alors là, on est directement dans les célèbres topics de Freud. La première topic, qui est la topic de l'appareil psychique. C'est un peu technique, ce sera très court, je vous rassure, mais dans quelques secondes, je ferai la synthèse, une synthèse très intéressante pour ce qui nous concerne à nous, hypnothérapeutes, sur le travail des symptômes. Elle a été cette topic, la première topic conçue par Sigmund Freud, qui est la topic et l'étude de la structure mentale dans une théorie des lieux, c'est-à-dire la différenciation des parties de l'appareil psychique en différents systèmes doués de caractères et de fonctions différentes et disposés dans un certain ordre. C'est une métaphore qui permet à Freud de spatialiser les lieux psychiques. Donc la première topic ou la première théorie de l'appareil psychique, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Freud l'a théorisé au début des années 1900 lorsqu'il travaillait sur l'interprétation des rêves, entre guillemets la science des rêves. La deuxième topic est élaborée un peu plus loin, elle introduit les instances de ce que l'on a déjà vu, le ça, le moi et le surmoi, et aussi l'idéal du moi. Bon, là vous rentrerez un peu plus dans le détail, moi j'ai surtout parlé du moi, du surmoi, inconscient, subconscient. Et enfin, dans ce mécanisme psychique, dans ces topics définis par Freud, il y a l'aspect économique et le point de vue économique, qui est un aspect quantifiable des choses. Alors ça, c'est là où je vous disais que ça allait être très intéressant, très intelligible et très court. C'est-à-dire que, en fait, là, on est directement dans l'énergie psychique qui est susceptible de diminution ou d'augmentation et d'équivalence. C'est-à-dire que le travail de l'appareil psychique est de transformer les énergies dites libres dans l'inconscient et dites liées dans le conscient, en des représentations particulières. Par exemple, un symptôme mobilisera une quantité d'énergie, ce qui tendra à appauvrir d'autres activités psychiques. Donc le symptôme va se concentrer sur une quantité d'énergie, accentuer le symptôme, et parallèlement à cela, d'autres activités psychiques et d'autres comportements hein, d'autres émotions seront atténuées ou modifiées. Les phénomènes de comme l'angoisse, par exemple, ou les mécanismes de défense sont des aspects dynamiques du fonctionnement psychique. Ça, c'était... Réécoutez-le, c'est extrêmement intéressant. Bien évidemment, vous pouvez lire sur le sujet, ce n'est pas la littérature qui manque, sur Freud et la théorie de l'inconscient. Alors, dans le manuel, nous avons rédigé moins d'une page sur l'inconscient, le conscient et l'inconscient, et sur les mécanismes psychiques. En sachant toutefois que tout travail d'ordre psychologique, et a fortiori en hypnothérapie, est un travail sur l'inconscient. Encore une fois, l'hypnose est un vecteur qui nous permet d'arriver à ce que l'on suppose un état d'ouverture suffisant de l'inconscient pour lui envoyer des émotions, des sensations et des images avec lesquelles il va travailler et résoudre les problèmes et les symptômes de votre client ou patient. Alors donc, dans le manuel, j'ai fait beaucoup plus court que ce que je viens de faire pendant le cours. Il y a une demi-page, et je ne suis pas rentré dans le détail, j'ai essayé de faire le plus simple, le plus prosaïque possible, et je vais reprendre ce que j'ai dit grosso modo. L'important finalement, c'est de comprendre que l'inconscient est un ensemble de perceptions, d'idées et d'émotions qui constituent le psychisme. Alors ce n'est pas une simple opposition à la notion de conscient, mais l'inconscient est véritablement un mécanisme autonome, un ensemble à lui tout seul, une structure dynamique et réactive. Donc c'est ce que je dis dans le manuel, à titre d'exemple, une émotion et la perception d'une émotion, un affect, peuvent entraîner dans l'inconscient une réaction dynamique, partielle, ou de l'ensemble des équilibres psychiques, et une modification du psychisme. Voilà comment l'on doit comprendre l'inconscient. Mais tout cela, bien évidemment, c'est du théorique. Encore une fois, je vous invite, si vous en avez envie et le temps, de lire, et notamment Sigmund Freud, hein, qui est à la fois un très bon pédagogue, un excellent écrivain, quelqu'un qui a aussi de l'humour, et qui est tout à fait accessible. Si vous lisez dans la progression et à la fin du manuel, vous aurez quelques œuvres intéressantes de Freud que vous pouvez lire dans leur progression et tout deviendra très clair. Contrairement à ce que l'on pouvait penser à 17 ou 18 ans lorsque nous passions le bac et notamment la philo ou pendant les cours de philo, Freud ce n'est absolument pas quelque chose d'abscon, d'incompréhensible, c'est tout à fait clair. Et encore une fois, je le répète, c'est un très bon pédagogue, un très bon écrivain, un excellent écrivain, et c'est aussi quelqu'un qui a de l'humour. Donc, que demander de plus? Surtout pour expliquer quelque chose de théorique. Je reviens et je conclue sur cette théorie de l'inconscient. Encore une fois, nous ne savons pas si cet inconscient existe. Ce que nous constatons, c'est que nous, les humains, nous fonctionnons avec nos émotions. Ou plutôt, nos émotions nous font fonctionner. Et en hypnothérapie, nous travaillons sur ces émotions. Le travail que nous mettons en œuvre en hypnothérapie est d'essayer d'envoyer à l'inconscient des émotions, des images, des sensations qu'il va capter pour tout ou partie, comme il le ferait naturellement dans notre quotidien, sauf que là, nous sommes dans une séance, et il le fait de façon synthétique, et il va travailler avec ça, de façon autonome, et nous le restituer, après le réveil et après la séance, pour modifier, corriger des comportements gênants, de souffrance, et c'est ainsi que fonctionne l'hypnothérapie, et c'est pourquoi il est important de connaître quelques notions, même si, et je dois le répéter pour la 20e fois dans ce cours, même si l'inconscient n'est que du théorique. À bientôt pour le prochain cours.